Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre.
Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
L'Amérique est-elle le berceau du rock ? Si le Royaume-Uni regorge de groupes et d'artistes désormais légendaires, ces derniers ne seraient rien sans l'histoire et la culture d'un pays qui a fait sa révolution bien avant le soi-disant pays des droits de l'homme qu'est la France. Sans la country, le jazz, le blues, le bluegrass, le folk, le trad, la polka et le gospel, le rock existerait-il ? Sans ces musiques importées par les immigrants d'Europe, entre le 16e et 19e siècle, les Beatles, les Rolling Stones, les Kings, les Yardbirds, les Who et toutes celles et ceux qui s'en sont inspirés n'auraient jamais vu le jour. En français, country, ça veut dire pays. Ce pays, c'est les États-Unis, celui des cow-boys, celui des paysans, celui d'une Amérique où l'esclavage a divisé une nation, celui des villes où la révolution industrielle a permis à très peu de s'enrichir au profit de millions d'ouvriers maltraités, mal payés et mal considérés. Ce n'est pas pour rien que le 1er mai, la journée internationale des travailleurs, a vu le jour en 1886 dans le pays de l'oncle Tom, suite à un rassemblement pour revendiquer la journée de 8 heures. Un pays où les inégalités ont toujours été criantes et dont nos gouvernants sont friands, au point qu'en France, 5 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres. Sans la musique de ces chants sans dents chers à Hollande, qui ne sont rien selon la formule macronienne consacrée, pas sûr que la country, le blues, le bluegrass, le folk, le trad, la polka, le gospel et donc le rock auraient existé. La musique qu'on aime vient bien de là. Pour une fois, on est bien d'accord avec Jean-Philippe Smet. Au terminus des prétentieux, 1033e cours d'histoire ce soir, n'existerait pas sans ces oubliés de l'Amérique. La musique sort rarement des beaux quartiers. Sous les 90.0 de Radio B, pas sûr qu'à Nuit, ils sortent des notes des pianos des héritiers. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15, d'habitude c'est 15 mais là c'est 10 ce soir à 18h10, 15, 20, 25, pas plus, pour une émission américaine, pas celle de la consommation à outrance, pas celle de Trump, quoique, pas celle d'un pays qui se croit le plus fort du monde et n'a jamais réussi à gagner une guerre depuis 1945, la dernière avec l'aide de deux bombes nucléaires quand même. Non, ce soir nous remontons dans le temps jusqu'au XVIIe siècle, puis nous descendrons une rivière. Et au milieu, nous rajouterons entre deux, l'histoire est d'une nation à travers quelques notes de guitare, de banjo, de mandoline et de violon. Notre invitée d'un soir pourrait être l'une de ses descendantes d'un genre que l'on appelle aujourd'hui le rock, mais que l'on a appelé jadis le jazz, la country, le bluegrass, le swing, le folk, le trad et l'old time. Elle a rajouté à son chant un piano, une batterie, une contrebasse, un saxophone ténor et une trompette. Le résultat de tout ce melting pot artistique est la sortie le 15 juin 2022 de 5 chansons sentant bon les bas-fonds des bars des États-Unis. Comme son site internet le dit si bien, l'old swing y côtoie le latin jazz, des accents soul se mêlent à la douceur du folk pour constituer ce nouveau disque varié et tout en sensibilité. En français dans le texte, mais aussi en anglais. Que voulez-vous, on ne renie pas ses influences et encore moins ses références, celles de Joni Mitchell, Emmylou Harris, Mandoline Orange, Dan Timinsky, Gillian Welch, Joan Baez ou Aimé Mann. Alors, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de Radio B la chanteuse, auteure, compositrice et interprète lyonnaise, Claire Nivard. Claire, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, si tu pouvais remonter le temps avec la voiture du doc, quelle période des États-Unis aimerais-tu vivre ?
Ah, intéressante première question. Je crois que j'aurais adoré vivre dans les années 20-30 à la Nouvelle-Orléans, dans un bain de jazz, de swing. C'était sûrement une époque très festive qui m'attire beaucoup.
Ça ne m'étonne pas. Allez, bien. Tu seras avec nous jusqu'à...
Jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin. À 18h15, 20, 25, pas plus. Et tu nous présenteras ton EP 5 titres entre deux, sorti le 15 juin 2022. Sans oublier ta collaboration avec Glenn Arzel avec un album Riding Road sorti en 2020. À tes côtés, je te présente mon co-animateur. Alors, lui aussi a connu la région parisienne.
Oui.
Contrairement à moi qui habitais 403 rue des Pyrénées, il n'a jamais fréquenté le 20e arrondissement de Paris. Tu me confirmes ?
Non, je ne te confirme pas parce que j'ai passé quelques mois à Porte de Bagnolet.
Ah mince.
Donc c'est rapide. Mais ça date d'il y a longtemps.
Mais ça fait rien, je suis grillé.
Ouais, t'es grillé.
Bon, et en tout cas, il n'a pas fréquenté le 17 rue du Surmelin. Ça, c'est sûr.
Non, ça, c'est sûr.
Ah, c'est sûr. Ce n'est donc pas lui qui t'a posé un lapin, alors que tu t'attendais à l'église que l'on vienne te dire oui. Et oui, mon co-animateur n'a déjà pas des centaines d'heures par jour pour présider son association. Il ne manquerait plus qu'on vienne lui reprocher... quand même. Alors, aucune chance qu'il écoute le chant des sirènes. Entre deux réunions, c'est un secret de polichinelle. Il a même le temps de parler dans le vent. Alors, quand il sera vieux, il a promis de danser la valse du whisky avec les anges. A priori, ce n'est bon pour personne. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut Claire, salut à tous. Bon, t'as encore fait très très fort. Donc, est-ce que t'as reconnu des choses ?
Oui, bien sûr, je suis impressionnée par la manière dont tu as étudié tous mes titres différents CD et comment tu as réussi à caser les titres dans cette présentation fort adaptée.
Depuis le début de saison, j'ai droit à des petites histoires comme ça. Mais il a beaucoup d'imagination.
Il vit ses choses en ce moment.
C'est incroyable.
Ah ouais.
C'est énorme, c'est très très bien, Michel. Voilà. Continue comme ça.
Voilà. Bon, par contre, j'ai une petite boulette.
La petite boulette de début.
Le 20e.
Mais tu savais pas. Tu savais pas. Voilà. J'ai passé 4 mois dans le 20e.
Ouais, mais quand même.
Voilà, mais c'est tout.
Ah, quand même. Ouais. Port de Bagnolet, c'est pas loin de la rue du Surmelin, ça ?
Oui, tout à fait. C'est le même arrondissement. Je pense que ça doit être à 5 minutes à pied, à peu près.
Ça doit pas être très loin.
Eh ben voilà, tu vois. Eh ben voilà. Bon.
Allez, vamos ?
Vamos.
Californie, nous voici. Pas en arrière, maman. Un dernier coup d'œil au pays.
On va en Californie, n'est-ce pas? Très bien, alors allons en Californie.
Mais ça te ressemble pas, maman. Tu n'étais jamais comme ça avant.
J'ai jamais eu ma maison écrasée avant. J'ai jamais eu ma famille jetée sur la route avant. J'ai jamais perdu tout ce que j'avais au monde avant.
endormi, nous voici.
28 octobre 1929, depuis 4 jours, une crise boursière sans précédent éclate à la bourse de New York. La bulle spéculative éclate et l'indice Dow Jones s'écroule. Le crash de 1929 emporte tout sur son passage. La crise économique qui suit la Grande Dépression provoque l'explosion du taux de chômage. 2 millions d'Américains sont sans abri. Les manifestations contre la faim se multiplient. Pour ne rien arranger, dans les campagnes sévit une catastrophe écologique et agricole, notamment au Dust Bowl, une région à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, touchée dans les années 30 par la sécheresse et une série de tempêtes.
Touchée par quoi, Michel ?
La sécheresse.
Bon, c'est bon, on a tous compris. Allez, vas-y, enchaîne.
Oui, vous avez compris. Merci, Tonio.
Mais je t'en prie.
Et une série de tempêtes et dont l'usage massif de l'agriculture mécanisée sur les exploitations agricoles de grande taille n'est pas étranger ou étrangère, je ne sais plus, à cette raréfaction de l'eau. La ruine. Hein, je me trompe, ça va ? J'ai bon ?
Oui. Historiquement parlant, oui. Bien. Tient.
Non, bah, c'est Wikipédia qui m'a tout dit. Donc,
merci. Ah, on salue Wiki. Salut.
Ouais. La ruine des fermiers des grandes plaines pousse des milliers de personnes à s'installer dans les États de l'Ouest. Le décor est planté. John Steinbeck écrira la suite, une suite, celle de l'histoire de la famille Jode, dans son célèbre roman Les raisins de... J'ai pas passé mon temps à écrire Les raisons de la colère. C'est un lapsus révélateur, je crois. Mais ça peut être Les raisons de la colère aussi. Mais là, c'était Les raisins de la colère. The Grapes of Wrath of... Toi qui parles bien anglais, parce que moi, l'anglais... The Grapes of...
Of Wrath.
Ah, mais c'est le TH. Ouais, c'est pas français, ça. Paru en 1939. Les Jaudes, bah, ce sont des métayers expulsés de la terre qu'ils exploitent. Nous sommes alors en pleine Grande Dépression du côté de l'Oklahoma. Ils embarquent dans un camion de fortune, hein, effectivement. Pour ceux qui ont vu le film, il est vraiment de fortune, ce camion. Avec ce qu'ils peuvent emmener et empruntent la fameuse route 66 qui doit les emmener en Californie ou après, d'après un prospectus, il y a du travail dans la cueillette des fruits. C'est ça. Ouais. Une illusion dont ils seront malheureusement les victimes à travers un périple où ils sont traités, eux, des Américains, hein, comme des simples migrants dans leur propre pays, rejetés dans des camps de fortune où règne la loi des propriétaires terriens, profitant d'une main d'œuvre très bon marché et où les grévistes deviennent des hors-la-loi. On y découvre aussi l'existence de ces camps administrés par la FSA, la Farm Security Administration, organisme américain créé par le ministère de l'Agriculture en 1937 et chargé d'aider les fermiers les plus pauvres touchés par la Grande Dépression et qui, ce qui ne plaît pas bien évidemment aux autorités locales. Je ne vous raconte pas la suite. À défaut d'avoir envie et le temps, surtout le temps de lire Les raisins de la colère, ce chef-d'œuvre de la littérature américaine, il vous reste le film en noir et blanc de 1940 de John Ford, Oscar du meilleur réalisateur quand même, avec Henry Fonda, Jane Darwell, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, et John Carradine, le père de qui, vous savez, les fans de la série Kung Fu me comprendront. Yes ?
De Keith ?
Hein, du fils, hein ?
De Keith ? Non, c'est pas comme...
David.
Non, c'est David Carradine. David Carradine, oui. Exact. Oui. Kung Fu, exact. Ouais. Voilà. C'est bon.
Bien. Que ce soit... Bah, c'est plus notre culture. Kung Fu, ça dit rien, toi.
Pas trop, non. Pas trop. C'est pas trop ma tasse de thé, j'avoue.
Pas enfin, non plus, mais...
C'est une vieille série, ouais.
C'est vieux.
C'est vieux, ça, ouais.
C'est pas une question de tasse de thé, c'est...
Non, c'est ouais. Ce qui passait, en fait, voilà, sur Antenne 2, ou je sais même plus où ça passait, d'ailleurs.
C'est vieux.
C'est vieux, hein.
Oui, c'est... 40 ans facile. Bon, alors que ce soit le livre ou le film, Les raisins de la colère a inspiré bien des artistes. Ainsi, Woody Guthrie a écrit la chanson The Ballad of Tom Joad après avoir vu le film. Bruce Springsteen a sorti en 1995 un album et une chanson faisant référence au héros des raisins de la colère, The Ghost of Tom Joad. Don't Rage Against the Machine a repris une chanson de Bruce Springsteen. Le deuxième morceau de l'album de 1993, Art martien d'IAM, intitulé Les raisins de la colère, fait référence au roman de Steinbeck. Sans oublier l'adaptation sur une scène française et pour la première fois au théâtre par la compagnie Sea Art.
Oui.
C'est en anglais. Sea Art, du roman de John Steinbeck. Alors Glenn Arzel et Claire Nivard ont enregistré un EP, Les raisins de la colère, regroupant les musiques du spectacle auquel ils participent. Et dont fait partie donc Jode Family Theme, le morceau culte de ce soir, un thème que l'on retrouve dans le film de John Ford, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce un hasard si Claire Nivard est avec nous ce soir? Non, bien évidemment. Et avec ce morceau culte, avec ce double, triple morceau culte en particulier, Claire, qui a eu l'idée d'un tel projet sur scène?
Alors, c'est venu de l'idée de Xavier Simonin, qui est le metteur en scène du spectacle, et de Jean-Jacques Milteau, qui est un bluesman harmoniciste célèbre qu'on ne présente plus.
Pardon.
Il est quand même très connu. Et donc, Xavier et Jean-Jacques ont travaillé en duo ensemble sur un spectacle de théâtre avant Les Raisins de la Colère. Et Les Raisins de la Colère est la suite de leur collaboration au théâtre. Et donc, ils cherchaient à faire un spectacle mêlant théâtre et musique. Et ils ont cherché des auteurs-compositeurs pour créer les musiques originales de ce spectacle dans la veine des musiques trad américaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai été contactée et qu'avec Glenn, on s'est retrouvés sur cette aventure pour composer la musique du spectacle et l'interpréter sur scène avec le reste de la troupe.
Ah, pourquoi vous ?
Bonne question. Ouais. Bah, je pense que c'est sur recommandation. Il n'y a pas, énormément d'artistes qui composent leurs textes et leurs musiques dans une veine old-time, bluegrass, blues, très trad acoustique en France, parce que c'est une niche musicale, hein, c'est pas trop dans notre culture française, c'est vraiment une musique purement américaine. Donc peut-être que au fil du réseau de contacts musicaux, il a entendu parler de nous, je pense, et il a dû écouter des choses de notre duo en ligne, et ça a dû lui plaire pour qu'il nous contacte ensuite.
D'accord.
C'était un honneur pour nous quand on a vu ce mail et quand on a échangé au téléphone avec Jean-Jacques Milteau. C'était vraiment une belle rencontre en tout cas.
Ouais. Alors, depuis le film de John Ford, réalisé du vivant de John Steinbeck, jamais ses ayants droit n'avaient autorisé la moindre adaptation de ce roman au cinéma ou au théâtre. Alors, qu'est-ce qui a fait pencher la décision en votre faveur? Ça a été compliqué d'avoir l'autorisation? Raconte-nous un peu tout ça.
Oui, le metteur en scène Xavier Simonin a bataillé pendant 5 ans auprès des ayants droit américains pour pouvoir avoir les droits d'adaptation
au
théâtre. Parce que c'est très compliqué à voir. Oui, il ne voulait pas.
C'est une question d'argent ? Non, c'est même pas.
C'est une question de roman américain sacré, en fait. Et je pense qu'il le préserve de toute adaptation qui pourrait potentiellement être ratée pour pas que ça porte préjudice à l'œuvre de ce grand roman américain de Steinbeck. Et donc, je pense qu'ils sont très sélectifs, très pointilleux. Pour donner les droits d'adaptation. Il paraît que même Steven Spielberg n'a pas réussi à les avoir pour une adaptation au cinéma. Donc je pense que c'est l'opiniâtreté et aussi le beau parcours artistique de Xavier Simonin qui les a convaincus au final, au bout de 5 ans. Mais il a vraiment dû s'accrocher pour les convaincre. Et actuellement, en France, on est la seule compagnie à avoir les droits pour jouer ce spectacle. Donc c'est un honneur de défendre ce travail depuis l'année dernière, en tout cas.
Parce qu'il y a d'autres artistes étrangers qui ont eu des droits depuis, ou non?
Peut-être qu'il a été adapté ailleurs en Europe il y a quelques années, aux États-Unis aussi. Mais je sais qu'en France, on a vraiment l'exclusivité, actuellement.
Les droits, ça fait pour ça dure qu'un temps, les droits, non?
Oui, je ne saurais pas vous dire pour combien de temps la production a les droits. On a encore les 2 saisons à venir, hein, certainement.
Non, mais je parle que les descendants autorisent ou pas, au bout d'un certain temps, ça passe dans le domaine public ou pas?
S'il n'y a pas d'ayant droit, ouais.
À partir du
moment où il y a des héritiers ayant droit,
ça peut
durer des générations.
D'accord.
C'est vraiment qui décide, ouais.
D'accord. Mm-hmm. Alors, comment se déroule la pièce de théâtre et qui intervient sur scène?
Alors, on est 3 musiciens avec un comédien conteur. Donc, c'est Xavier Simonin, metteur en scène et acteur principal du spectacle. Il interprète à lui tout seul tous les personnages de l'histoire.
D'accord.
Avec un don de transformisme et un charisme d'interprétation qui est passionnant à regarder tous les soirs à chaque représentation. Et autour de lui, on est 3 musiciens. Donc il y a Stephen Harrison à la contrebasse. Moi, je suis en guitare et en chant. Et il y a également Glenn Arzel en alternance avec Manu Bertrand. Et Glenn et Manu se partagent plein d'instruments. Donc il y a du banjo, du dobro, de la guitare slide, de la mandoline. Donc c'est un petit peu les hommes orchestres de ce spectacle. Et à nous trois, on crée des ambiances musicales qui vont vraiment puiser dans les musiques old-time des années 20-30 très roots pour accompagner la narration du texte conté par Xavier.
D'accord. Donc comment compose-t-on des chansons et musique d'une pièce de théâtre ? On se base sur quoi ? Forcément sur la musique du film ou...
Alors, pas du tout. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le Joad Family Theme que tu as passé en morceau culte. C'est une composition de Glad et moi et ce n'est pas un morceau qui vient du film. C'est vraiment une composition originale. D'accord. Donc nous, comment on a travaillé à deux avec Glenn ? On a lu le livre... ou relu. Moi, je l'avais déjà lu quand j'étais ado, donc il fallait que je me le remette en mémoire. On a regardé le film aussi. Et à partir de certains extraits du texte de l'adaptation de Xavier, il y avait des passages clés où il fallait qu'il y ait des morceaux, selon les directives du metteur en scène. Et donc, l'idée était de traduire des passages du texte en musique sans que le texte soit dit. Mm-hmm. Et donc, il s'agit, selon les moments de l'histoire... de composer un morceau qui raconte ce qui est dit sans utiliser forcément les mots de Steinbeck. Il s'agit de les remanier, de les transformer et de trouver une instrumentation qui colle avec l'ambiance de ce passage en question. Donc on a fait beaucoup de maquettes enregistrées à la maison qu'on envoyait à Jean-Jacques Milteau. Donc il y a eu beaucoup d'échanges et il nous dirigeait en nous disant... choisissez plus tel ou tel instrument, faites un refrain en plus, ou coupez ce morceau-là, essayez autre chose à tel endroit. Donc il a vraiment guidé la composition. Et au fur et à mesure des échanges de maquettes et de fichiers sons, on arrivait à tomber d'accord sur ce qui irait bien avec tel ou tel passage du texte. Mmh. Et ensuite, il y a eu l'étape du passage au plateau, en fait, qui a été passionnante, où il fallait faire se rencontrer vraiment... texte et musique, en tuilant les choses pour que ce soit fluide. Et il ne fallait pas que la musique prenne le pas sur le texte interprété par Xavier aussi. Donc il fallait trouver le bon équilibre entre le texte dit par le comédien et ce que la musique racontait avec lui. Donc c'était vraiment un travail nouveau et intéressant pour nous.
Ouais. Quel rapport, toi, tu avais avec Les Raisins de la Colère, que ce soit le livre ou le film ?
Au départ, moi, c'est juste un livre que j'avais lu il y a bien longtemps. Je pense que je devais être au collège. J'avais adoré. Et donc là, quand on m'a contactée pour ce projet-là, pour moi, c'était un grand bonheur de me replonger dans cette œuvre qui avait été assez marquante à l'époque où je l'avais lue et qui, en plus, est dans un terreau de musique qui me parle complètement parce que ça fait pas mal d'années que je suis dans les musiques trad américaines. Donc, je me suis dit... quelle formidable opportunité, les étoiles s'alignent, les planètes s'alignent. Donc, ouais, ça me parle particulièrement par rapport à l'époque musicale aussi de ce texte.
Alors, il y a des parallèles évidents entre l'histoire de cette famille Joad et puis l'histoire de millions, voire de milliards de personnes aujourd'hui. Je pense à la notion de migrant, d'exploitation de l'homme, de syndicalisme, de communisme, un gros mot aujourd'hui, de misère sociale, d'inégalité, d'injustice. Tout à l'heure, je parlais de crise économique. Quand Coluche disait qu'une crise, c'est quand les riches sont plus riches et les pauvres plus pauvres, il avait bougrement raison. Les Raisins de la Colère... n'a pris aucune ride, finalement. 90 ans plus tard, l'histoire est un éternel recommencement. Et commune, c'est toujours un gros mot, comme à l'époque.
Oui, ouais, c'est assez fou. Le texte a près de 100 ans et il y a des lignes, quand on les lit, on se dit, mais ça pourrait être écrit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans nos contrées. Donc, c'est aussi la force de ce spectacle et de ce texte, quoi, vraiment de se baser sur l'actualité politique, sociale, écologique aussi. Mmh. De ce chef-d'œuvre, c'est tout à fait d'actualité.
Soit dans le film, il y a une image où ils arrivent, ils sont chez eux, ils sont dans leur pays, et ils sont considérés comme des migrants. Le parallèle avec aujourd'hui, c'est le même, rien changé. Quoi.
Ouais.
Comme si le monde du fric et des cons avait existé déjà en 1939. C'est fou ça.
On tourne en boucle.
Alors Claire, toi qui as commencé ta carrière au théâtre comme comédienne, il me semble. Là, je ne me suis pas trompée.
Oui, c'est ça.
Bien, alors si je ne me trompe pas, quel rôle des Raisins de la Colère aimerais-tu jouer pas chanter, jouer. Alors, tu as le choix entre Matt Joad, c'est pour ça une fille, Rose River, c'est la fille.
Rose de Sharon, ouais.
Et puis, ou Ruthie Joad. Et avec quel metteur en scène et réalisateur, si c'était une pièce de théâtre ou un film, vas-y.
Oh là là.
Ça fait beaucoup. Quel rôle aimerais-tu jouer ?
Oh, je pense que le personnage de Man est formidable. C'est une mère qui a une force incroyable et qui porte toute la famille pendant ce dur voyage avec son opiniâtreté, son courage. Et, c'est une mère poule qui accompagne tout son entourage avec énormément de courage. Donc c'est un des personnages très forts de l'histoire, parallèlement à Tom Joad. Donc ce sera un monument à jouer. Si j'étais encore comédienne, c'est plus le cas hein, depuis pas mal d'années. Et
on peut jamais dire jamais.
C'est vrai, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Et après, au niveau d'un réalisateur, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Lars von Trier. Je suis très très fan de toute sa filmographie. Donc, si jamais il adaptait cette pièce au théâtre, voilà, ce serait la bonne configuration.
Au théâtre, au cinéma ?
Ou au ciné, oui.
N'importe.
Ouais, les deux, ce serait
les
cool.
Bien. Allez, refermons les pages des Raisins de la Colère et ouvrons celui de Claire Nivard. Céderons-nous à l'appel du chant des sirènes ? Eh bien, réponse tout de suite au Terminus des Prétentieux. Eh bien, il est 17h, passé de 39 minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio ?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin, si vous êtes avec nous depuis 9h, ou la rediffusion du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios Claire Nivard, qui a sorti le 15 juin 2022, entre deux, un premier EP sous sa seule identité.
Hein ? Tout à fait.
Ben oui. Claire, on parle d'artiste lyonnais. À ton propos, alors tu es une gonne pur jus ou d'adoption ?
Ah, d'adoption. Je suis à Lyon depuis 5 ans maintenant. J'ai vécu pas mal d'années à Paris. Au tout départ, je suis d'origine en partie corse. Donc voilà, je suis une gonne d'adoption.
Une globe-trotteur.
Voilà.
Trotteuse. Parce que j'allais rajouter, le 17 rue du Surmelin et dans le 20e arrondissement de Paris, c'est un hasard ? Non.
Non, c'est pas un hasard. C'est une chanson qui a été inspirée par mon propre vécu sur une personne qui habitait à cet endroit-là.
D'accord. Ah, c'est pas toi ?
Non, c'est pas moi. Ah. Moi, j'habitais dans le 17e à l'époque.
Voilà. C'est l'autre côté, ça.
C'est ça.
Donc, on le disait, tu as commencé par être comédienne. Enfin, avant d'être comédienne, j'imagine, bon, t'es à l'école. D'abord, la guitare est arrivée, j'imagine, bien avant que tu sois comédienne.
Non, après, en fait. Ah oui. Ouais. C'est d'abord le chant qui est venu, voilà. Parce qu'en travaillant au théâtre, j'ai vraiment beaucoup commencé à travailler ma voix par conséquent à cette époque-là. J'ai travaillé en tant que comédienne chanteuse dans des spectacles assez musicaux.
Et, forcément comédienne chanteuse.
Pas forcément, mais voilà, c'était ce qui me plaisait le plus, en tout cas les spectacles musicaux déjà à l'époque. Et je me suis mise à la guitare parce que j'étais très attirée par le folk. Et l'association chant-guitare est très classique en folk américain. Et j'avais envie de pouvoir m'accompagner en chantant mes chansons. Donc, ça a été l'instrument de prédilection qui est venu assez rapidement, en tout cas.
Donc, ce sont tes influences qui t'ont donné envie de jouer de la guitare ?
Oui, c'est ça. J'ai eu toute une période autour de mes 20 ans où j'ai écouté énormément Neil Young, Bob Dylan, tous ces groupes folk 60s, 70s, etc., qui m'ont pas mal influencé l'oreille, des chanteuses comme Emmylou Harris, Joan Baez, évidemment.
D'accord.
Ça a été le terreau de la suite.
Et le country, le bluegrass, le folk, enfin ça arrivait plus tard ?
Oui, quelques années après, par rencontre, en fait, je me suis retrouvée dans une jam à Paris, une jam bluegrass. Et un ami m'a amenée là-bas en me disant « Attends, je vais te faire découvrir le bluegrass ». Je lui ai dit « Le quoi ?» Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je suis arrivée dans cette armée de banjo, violon, avec des harmonies vocales. Et j'ai trouvé que c'était une musique très, très chaleureuse, très humaine, avec des histoires simples. Et accessible, et ça m'a beaucoup touchée. Je suis tombée dedans vraiment par coup de cœur. Et ensuite, au gré des rencontres musicales, j'ai collaboré avec pas mal de gens de la communauté bluegrass française, parce qu'il y en a une qui est bien existante. Et c'est en suivi ma rencontre avec Glenn Arzel, où on a monté notre duo folk ensemble.
Donc, qui dit musique américaine, dit forcément l'anglais ?
Pas forcément. C'est vrai qu'il y a des artistes qui chantent en français sur des influences folk, country. Mmh. Je pense à Baptiste Hamon, par exemple.
Mmh. W.
Oui, c'est vrai.
W.
Baptiste W. Hamon. une jeune artiste aussi qui fait partie de mes amis, Valentine Lambert, qui écrit des très beaux textes en français avec une belle inspiration country folk aussi. Pomme. Aussi, on peut la citer. Mais donc oui, c'est vrai qu'on peut tout à fait faire du français, mais moi, j'ai toujours eu plus de facilité à chanter et écrire en anglais jusqu'ici, en tout cas.
Ouais. Tonio rajouterait la Maison Tellier. Hein
ouais, aussi.
Ah, oui, aussi.
Bah, oui.
Oui, oui.
Ah, mm-hmm. Oui. Donc, plutôt l'anglais.
Ouais.
Ouais. Mais donc, uniquement par rapport à la musique, par rapport à tes influences musicales
Par rapport à la musicalité de la langue anglaise, ouais. En fait, que je trouve très chantante avec ce style musical-là. Mm-hmm. J'ai aussi fait des études d'anglais, donc c'est une langue que je porte dans mon cœur depuis quand même très longtemps.
Ouais. Et aussi, t'as voyagé aussi.
Ouais, j'ai pas mal passé de temps en Angleterre, aux États-Unis aussi. Et après, ce qui se passe avec le français, c'est que, en tout cas, moi, je me sens plus vulnérable quand j'écris et quand je chante en français, peut-être parce que c'est ma langue maternelle, que je suis plus exigeante avec. Et c'est comme si en chantant en anglais, il y avait comme un petit filtre supplémentaire qui permet de se sentir plus en confiance aussi. Mais la prise de risque avec le français est hyper intéressante et attirante aussi, c'est autre chose.
Donc, de ta rencontre avec Glenn, eh ben, est sorti un premier EP en 2018, Evening Songs.
Oui.
Un deuxième, Winding Road.
Oui.
Voilà, donc toujours dans cet esprit bluegrass, country.
Oui, old-time.
Old-time, enfin voilà, la liste est longue.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y aurait un mot pour résumer tous ces genres différents, country, bluegrass, folk, celtic, trad, old time, ça peut se résumer en un ou deux mots, trois mots. Alors.
Bref, le maître mot, c'est folk acoustique, hein, c'est sûr, c'est vraiment le genre principal. Après, le projet avec Glenn, on a une dominante old time.
Ça veut dire quoi, old time?
Old time, c'est vraiment, c'est les prémices du bluegrass, c'est plus la musique des années 20 qui est née dans les Appalaches. Avec un style de banjo spécifique, parce qu'il y a du banjo old time et du banjo bluegrass. Donc voilà, ça vient du style de jeu du banjo. Et c'était vraiment une musique des montagnes, on l'appelle la mountain music, et qui a été aux origines du bluegrass, qui est plus arrivé dans les années 50, en fait. Donc ouais, il y a un côté plus old time avec ce qu'on fait avec Glenn, mais aussi avec des inspirations celtiques, parce que c'est des musiques nord-américaines qui viennent des influences anglaises, irlandaises, écossaises, forcément de par l'immigration, et qui se sont énormément mélangées avec la population noire africaine sur place, sur le sol américain. Donc il y a aussi des influences blues,
Le jazz,
gospel, jazz aussi. Oui. Donc tout ça est un grand melting pot avec plein d'influences qui sont passionnantes.
Est-ce qu'on est forcément dans l'Amérique profonde? Pas la bonne. Hein.
Ouais. Ça vient de l'Amérique profonde, mais aujourd'hui, c'est des styles musicaux qui se pratiquent partout aux États-Unis. En fait, on n'est plus forcément que dans les Appalaches ou parmi les rednecks du Midwest. au départ, ça part de là, mais il y a quand même d'autres parties de la population et d'autres parties géographiques qui s'en sont emparées. Et ça essaimait d'un peu partout, en tout cas.
D'accord. Non, parce que qui dit Amérique profonde, il peut avoir une certaine image de l'Amérique avec ses pro-Trump, c'est comme la France profonde, quoi.
Oui, hein, c'est vrai. Ce que je veux
dire. Mais là, c'est pas le cas du tout.
Non. Voilà. En tout cas,
c'est l'autre France, c'est l'autre Amérique profonde.
C'est
on,
ça.
On peut dire ça.
Et puis, en tout cas, Glenn et moi, dans ce projet-là, on s'inspire de la musique, on est passionné par ces sonorités-là, mais on n'a absolument aucune affiliation avec le côté politique. C'est vraiment l'amour de cette musique-là qui construit notre projet et on n'a pas d'étiquette
Même si faire un spectacle autour du livre Les raisins de la colère, il y avait une petite connotation quand même. Quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà,
ouais. Je préfère être étiqueté politiquement raisin de la colère que redneck, en tout cas.
Voilà, exactement. Donc, le bluegrass, la country, bon, ça peut mener au jazz aussi. Et tu vois,
tout à fait.
Où je veux en venir. Donc, le jazz, il est à part ou il fait partie de ce melting pot?
Il fait partie aussi, ouais. Parce que le...
Il arrivait après quand même.
Moi, dans mes influences,
oui.
Tu veux dire?
Oui.
Oui, moi c'est venu après le folk. En fait, c'est assez récent cette aventure jazz. Je m'y suis intéressée de près depuis 3-4 ans.
Ah, et pourquoi là?
Parce que ce qui m'a vraiment intéressée et ce qui m'attire énormément, c'est le côté musique improvisée, musique de l'instant qu'on retrouve dans le jazz et le swing, et le fait que chaque interprétation du même morceau peut être différente parce que les musiciens vont partir en solo, en questions-réponses les uns avec les autres, et il y a un côté organique que je trouve très beau dans ces musiques-là, et le tempo du swing aussi qui prend au corps et qui ne nous quitte plus quand il rentre, en fait, celui-là. Je trouve que c'est... c'est une approche de la musique qui est différente du folk et de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, j'avais vraiment envie d'explorer cette nouvelle approche et d'en faire une autre facette de ma personnalité musicale, en tout cas.
Donc, le projet... Donc le projet, déjà, c'est sous ta seule identité.
Oui, c'est mon premier EP solo, entre guillemets.
Voilà.
C'est ça, c'est la première fois que je produis quelque chose seul, entre guillemets, parce que j'ai été évidemment accompagnée par des super musiciens et une très belle équipe dessus. Mais c'était une grande aventure d'enregistrer mes chansons et d'être porteuse seule de ce projet. Je suis très contente du résultat et c'est un disque qui me tenait beaucoup à cœur. Pour cette nouvelle exploration de jazz et avec des morceaux assez personnels et intimistes, j'avais envie de me mettre un peu en danger avec ce CD-là. Et c'était un travail de création vraiment formidable, en tout cas avec ces musiciens.
Donc le EP s'appelle Entre deux, il est sorti le 15 juin 2022. On va en découvrir un premier extrait, ce ne sera pas celui de Tonio. On va bouger un petit peu, on écoutera Chant des sirènes après, c'est tout à fait autre chose.
Oui, c'est vrai.
Là, Allez. Si on a envie de danser un petit peu, de swinguer, je pense que c'est le moment avec le morceau 100 Hours in a Day. Claire Nivard.
Early morning, from Monday to Sunday. The clock keeps ringing, even on a holiday. I'm but all I think of is that never-ending to-do list. There is no time to sit on the sofa, no time to chill with a little smoking vodka. Why didn't the Lord bring 100 hours in a day? Phoning, mailing, I'm always on the run. Typing, planning, I won't stop till it's done. Fun, but by the end of the day, I'm too tired for anything. There is no time to go on a party, no time for dance floors like in my 20s. Why didn't the Lord bring 100 hours in a day? 100 hours in a day. Brought 100 hours in it.
Claire Nivard, 100 Hours in a Day, extrait de son premier EP, Entre Deux. Entre Deux, est-ce une simple parenthèse entre deux quoi d'abord?
Ouais. Ah,
on l'avait compris, mais entre deux bluegrass, un petit peu de... Ouais, entre deux quoi?
Entre plein de choses, c'est un titre... j'ai beaucoup réfléchi à comment appeler cette EP. Et ça a été vite une évidence, en fait, au final, Entre Deux, parce que c'est un disque qui est né entre deux périodes importantes de ma vie. On est entre deux styles musicaux, parce qu'il y a du jazz, il y a du folk aussi. Donc ça réunit un petit peu mes deux influences. C'est un disque où j'ai mis beaucoup de ma sensibilité, de mes émotions. Et pour moi, entre deux, c'est aussi cette zone de partage des émotions et de non-dit entre deux personnes. Donc voilà, entre plein de choses. Et je trouvais que c'était un terme qui résumait bien la situation de ces chansons, en fait.
D'accord. Et de ta vie, alors ?
Tout à fait.
Est-ce que c'est une simple escapade ? Non.
Non, j'espère bien qu'il y aura une suite. En tout cas, après avoir travaillé avec cette équipe de musiciens formidables, je les cite parce que je les porte vraiment dans mon cœur pour le travail de création qu'ils ont fait avec moi. Et au départ, j'avais ces chansons dans mes tiroirs et je rêvais d'arrangements de jazz et je les ai rencontrés. Ils m'ont vraiment aidé à donner vie à ces morceaux et à les faire sonner tels que je les ai rêvés. Donc vous écouterez, vous pourrez entendre sur le CD Joël Clément au piano. Oui. Il y a Jocelyn Perrier à la batterie, Pierrot Brondel à la contrebasse et il y a deux cuivres, Thomas Leroux à la trompette et Patrice Foudon au saxophone. Et il y a un morceau folk, donc qui est le chant des sirènes, que je tenais à enregistrer avec Glenn Arzel, Pierre-Marie Baumier et Dominique Putinier, qui sont mes collègues du projet Glenn Arzel et Claire Nivard, parce que pour moi, c'était important de faire un trait d'union avec ces deux projets. Donc voilà, j'espère que Entre Deux n'est qu'un début et qu'il y aura une suite de cette aventure jazz, en tout cas.
En tout cas, Joël Clément, on le connaît parce qu'il joue avec un certain Rémi Garraud.
Ah, oui.
Ou Raymond Gary.
Ok.
Non ?
Oui, en effet. Je ne connais pas tous ces projets, mais c'est fort probable, en tout cas.
Bien. D'accord. Alors, donc, au niveau instruments, piano, batterie, contrebasse, saxophone, ténor, trompette, guitare, acoustique, électrique et violon, là, tu t'es lâché, là.
Oui, voilà. Je voulais
par rapport
plein
à d'habitude.
De sonorités. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, ça a été un gros travail de production pour réunir tout ce beau monde là en studio. Mais voilà, c'était un rêve de faire des choses en quintette comme ça. Ouais. Et le but, ce serait d'arriver à travailler sur une version live en fait de ce répertoire pour pouvoir le jouer en concert avec les musiciens. Donc c'est un de mes grands souhaits pour 2023. Si j'y arrive, en tout cas.
Parfois, on n'est pas loin du rock.
Ah oui ?
Bah là, par exemple, on n'est pas loin, là.
Sur 100 Hours in a Day ?
Ouais, on n'est pas loin, là.
Ah oui, il y a peut-être des influences.
On aurait peut-être envie de... Ouais.
Sur Blame It On Me, aussi.
Oui,
il y a un côté...
On n'est pas loin.
Je vois ce que
on
tu
est
veux
pas
dire.
Loin. On n'est pas loin. Donc des chansons... Un album Entre Deux, donc écrit Entre Deux, c'est en français. Et sur 5 chansons, il n'y en a quand même que 3 en français.
Oui, ouais, c'est ça.
Il n'a pas pu t'empêcher, l'anglais est ressorti.
Entre deux, ça peut être entre deux langues aussi, tiens.
Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie de ce que j'avais en tête aussi.
Donc deux chansons en anglais, quand même.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est les chansons qui bougent le plus, peut-être, hein ? Non ?
Oui, c'est les chansons qui bougent le
c'est
plus,
ça,
en effet.
Plus.
Celle
c'est
qui
ça,
est très swing ça. Et l'autre un peu soul.
C'est bien ça.
Etc. Ouais. Mais ces 3 chansons en français, c'est mes premiers textes en français mis en musique. Donc c'était un premier pas important pour moi de me lancer dans du français. D'ailleurs, La Mariée, c'est alors... le tout premier morceau que j'ai composé quand j'ai commencé à écrire et à composer mes propres morceaux. Donc c'est une chanson qui est très importante symboliquement pour moi, un premier pas vers la composition et je tenais à la mettre en ouverture de ce CD aussi.
Elle est forcément autobiographique ?
Non, pas du tout.
Pas
c'est,
du tout.
C'est une histoire c'est fictive.
Et quand tu utilises le jeu, évidemment.
Hein, oui, c'est ça.
Et puis,
j'aime bien raconter des histoires de personnages qui ne sont pas forcément moi.
Tu pensais à quelqu'un en particulier, quand même?
J'avais une image de ce film de Lars von Trier, Breaking the Waves, où le personnage féminin, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, m'a inspiré ça. En fait, il y a des scènes de falaises au bord de la mer. Ça doit être tourné alors soit en Écosse ou en Islande, enfin dans un de ces pays magnifiques. Et l'ambiance de ce film, pour moi, est l'ambiance picturale de La Mariée. Donc peut-être qu'il y a eu un peu de ça. Mais sinon, c'est vraiment une histoire de cœur brisé classique, comme on en entend mille fois dans les chansons.
Bon, il aurait pu dire oui ou pas?
Ouais, mais ça aurait été moins poignant s'il avait dit oui.
Ouais. Puis à la fin, tu dis même plus, il aurait pu dire oui, il aurait pu dire...
C'est ça. L'auditeur est libre de s'imaginer la suite.
Oui. Bon, la suite, bon, c'est inspiré, tu le disais, la rue du Surmelin de quelqu'un que tu connais.
Oui, oui, oui. Là, c'est un morceau très personnel d'une rencontre de jeunesse qui est évidemment romancée en chanson, mais c'est un des morceaux assez intimistes.
Ouais. Ça aurait pu être la première chanson, puis après le mariage, quoi.
Voilà.
L'ordre aurait pu être différent, non?
Peut-être. Après, pour moi, la mariée en ouverture du CD était une évidence, en tout cas, parce que c'est mon tout premier morceau écrit. Mmh. Donc,
non, c'est pour l'histoire, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ça répète la suite, quoi.
C'est vrai.
La mariée répète la suite. Aurait pu. Donc, cette chanson, il y a une troisième chanson en français qu'on découvrira tout à l'heure. Mais on a les deux chansons en anglais, donc très, très jazz, très swing.
Ouais.
Je suis désolé.
C'est pas grave.
Pardon.
La deuxième chanson s'appelle Blame It on Me. Que raconte ta chanson? Alors, qui te reproche quoi? C'est encore autobiographique ou là, quand c'est en anglais, pas du tout? Tu peux plus te lâcher là?
Oui, en fait, je suis en train de me rendre compte que
quand même.
Beaucoup, beaucoup de morceaux de cette EP sont inspirés de moi. Bah, Blame It on Me, c'est venu d'une dispute, d'une mésentente avec quelqu'un.
D'accord.
Et du coup, j'ai transformé ça en chanson et ça parle de l'incapacité à communiquer, à verbaliser. Et parfois, on se retrouve à s'engueuler, à se battre avec des gens qui ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur. Et ça s'envenime. Et ça pourrait être tellement plus simple et fluide et doux en se parlant, tout simplement, et en communiquant, que c'est dommage. Et du coup, l'agacement de cette non-communication a donné naissance à Blame It On Me.
D'accord. Moi, j'ai rajouté. Hein, qui te reproche quoi? Qui met la faute sur toi? Et après, j'ai rajouté. Ton amoureux de la rue de Surmelin, qui t'a posé un lapin à ton mariage?
Voilà, ce serait un bon fil directeur.
Ce serait bien ça?
C'est ça.
C'est ça? D'accord. Oui, mais évidemment, t'as beau dire à chaque fois, non, mais c'est pas moi, mais en fait...
Tout n'est centré sur moi.
Mais, après,
il faut du filtre, hein, quand même.
Oui, mais c'est dur d'écrire c'est pas facile d'écrire une chanson sur, qui raconte sa vie plutôt que celle des autres, non?
Après, moi, je trouve qu'en tant qu'artiste, on n'est pas là forcément pour être dans une exhibition de ses émotions, de ses sentiments personnels, de sa vie, etc. Ouais. C'est toujours plus intéressant de romancer la chose et de mettre un filtre d'interprétation artistique.
Après, c'est inconsciemment, quoi.
Voilà. Oui, voilà. C'est ça. Après, forcément, met toujours beaucoup de soi et de sa sensibilité dans ses créations, hein, qu'on soit chanteur, acteur, peintre, réalisateur, etc.
Tu te reconnais dans tes chansons?
Oui, en fait, elles sont très moi. Et je suis très, très heureuse de ce travail-là. Mais je ne me mets pas forcément complètement à poil dans mes textes, en fait, parce que je trouve que la distance est plus intéressante. Donc oui, ça part de moi, mais c'est aussi transformé et transformé artistiquement, quoi, pour que ça soit intéressant et qu'on ne tombe pas dans un voyeurisme qui est beaucoup moins intéressant, en fait.
Bien. Allez, on va écouter cette chanson, Le Chant des Sirènes, on y reviendra après.
Et bien voilà, Michel, t'as tout dit.
Mince.
On va écouter Le Chant des Sirènes.
Voilà, une chanson très, très folk, tried et Irish à la Moriarty.
Ah,
c'est possible, ouais, effectivement. Hein ouais.
Bon, on va en parler après, mais c'est très Moriarty dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Enfin, au début. Hein.
C'est intéressant d'entendre à quoi ça fait penser. Quand les gens parlent de ces morceaux. En tout cas, Moriarty, c'est souvent revenu, en tout cas.
Ouais. Ah, je suis pas le premier.
Ouais.
Ah mince. Bon, tant pis. Bon,
Attends, on pas l'exclu.
On la passe quand même.
Bah bien sûr. Allez. Le chant des sirènes, Claire Nivard.
S'approche. coucher ton navire sous le vent. Je chante sur mon rocher.
Le chant des sirènes, un deuxième extrait entre deux, l'EP de Claire Nivard.
Et qui est avec nous ce soir. Donc, le chant des sirènes, hein, genre Moriarty, intro, enfin, pour ceux qui étaient notamment au théâtre de Bourg-en-Bresse il y a longtemps, c'est genre intro avant Cotton Flowers, le violon met l'ambiance là. Hein.
Oui, l'intro est assez planante. J'avais envie qu'on s'imagine sur un paquebot en plein océan avec des grincements qui pourraient être des bruits de cordage.
Ouais.
Ces sonorités ont été faites...
Titanic, voilà. Non, pas le Titanic.
Un peu trop gros, le Titanic.
Ah, bon,
ces sonorités ont été faites avec la contrebasse et le violon, en fait, en frottant l'archet sur les cordes. Ouais. Et donc, il y a un côté très organique que j'aime bien dans cette intro. Ouais.
Il manque juste l'harmonica.
Ouais.
Il aurait pu en faire partie, l'harmonica.
Ah, ça aurait donné peut-être une touche bluesy qui n'avait peut-être pas trop sa place sur ce morceau que j'entendais plus dans une ambiance un peu celtique, voire baroque, avec cet arrangement de cordes.
D'accord. Bon, il y a aussi l'importance des chœurs, hein, signé Emmanuel Duvillard.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est moi qui ai fait les arrangements vocaux et j'ai invité Emmanuelle Duvillard à faire la voix de soprane parce qu'elle a une voix formidable que j'adore et je voulais vraiment mixer les timbres en ne faisant pas cette voix soprane moi-même. J'aurais pu, mais je voulais une personne extérieure, une chanteuse extérieure pour la faire. Et donc elle est venue enregistrer cette voix un peu céleste que je trouve très poétique en tout cas. Je suis ravie de l'avoir invitée sur ce CD.
Je rajouterais, c'est toi la sirène. Alors c'est toi la silène comme dirait Glenn.
Non, ce n'est pas moi.
C'est pas
mais
toi.
J'aime bien. j'ai toujours adoré ce personnage de sirène, de femme poisson là dans les histoires que je lisais quand j'étais enfant. Je trouve que c'est c'est plein de poésie et de dangerosité, un peu. Ce mélange-là m'intéresse beaucoup.
Le travail donc, d'enregistrement dans deux studios.
Oui, hein, deux studios différents. Les quatre morceaux de jazz ont été enregistrés à Microcosme. C'est un studio à Villeurbanne. Et ça nécessitait de l'enregistrement live, c'est-à-dire qu'on était tous ensemble, tous les quatre ou tous les cinq, selon les morceaux. Mmh. En rond dans la pièce, chacun avec nos micros. Et on a fait peut-être trois ou quatre prises live de la totalité du morceau. On a choisi la meilleure. Mais le jazz nécessite vraiment de la prise live et pas un enregistrement instrument par instrument. Par contre, pour le chant des sirènes, on a fait ça au studio L'Artisterie. C'est là où j'ai enregistré mes CD précédents avec Glenn Arzel. Et donc là, on a fait plus un enregistrement traditionnel en enregistrant d'abord la structure rythmique avec les guitares. Les voix ont été rajoutées en dernier. Donc c'était moins de la prise sur l'instant. Donc là, deux manières de travailler différentes qu'on trouve sur ce CD, en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un album de variété? Parce que chaque chanson a droit à une façon de chanter et un chant différent. C'est un album de variété?
Dans ce sens-là, oui, on peut parler de variété.
Sûr,
ouais. C'est un CD que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est mosaïque. Mmh. Je trouve que chaque chanson est différente et a sa propre identité. Les six morceaux sont vraiment distincts et chacun défend des couleurs musicales différentes, en fait. Donc, il y a un côté un peu patchwork, mosaïque, que je trouve joli dedans.
Ouais. Puis il y a beaucoup de sensibilité, quand même.
Oui, c'est un album très féminin, je trouve.
Bien. Un album que tu as essayé de commencer à défendre sur scène ou pas?
Pas encore. J'y travaille. C'est vraiment le projet de 2023, d'arriver à jouer ce répertoire-là de chansons en français et en anglais avec les musiciens qui ont enregistré avec moi. Donc, l'idée, c'est de produire le Claire Nivard Quintet et de tourner donc, avec piano, batterie, contrebasse et trompette en cuivre de prédilection, parce que parallèlement à mes compositions, il y a des standards que j'ai très envie de chanter avec eux, et j'ai, dans mes goûts personnels, j'ai quand même une dominante très old swing, années 20-30, et la trompette avec sourdine me rappelle mes influences New Orleans et apporte un univers musical que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas annoncer de date précise. J'ai des options qui commencent à se dessiner, mais c'est un peu tôt pour les annoncer pour 2023. Mais en tout cas, toutes les dates confirmées seront sur mon site clairenivard.com. Et j'espère avoir le plaisir de jouer en live avec ce quintet de jazz dans les mois à venir, en tout cas, pour donner suite à l'enregistrement.
Bien. Qui dit concert concert de la semaine dans l'émission. Donc, nous allons annoncer les concerts de la semaine, même si tu n'en fais pas partie cette semaine-là. Mais toi, le prochain concert.
Je vois des noms intéressants.
Mais oui, c'est pour ça. N'hésite pas à des petits commentaires, hein, en bien ou en moins bien, souvenir ou pas, bon ou mauvais souvenir. Hein. Chacun de notre tour, on va annoncer un petit concert de la semaine. Moi, je prends le premier parce que vendredi 28 octobre, au Radiant à Caluire, c'est des vieux de la vieille. Hein. Les Blue Oyster Cult, ils ont au moins 40 ou 50 ans. Mais... ils font dans le. Oh, c'est pas du métal, c'est pas du hard rock, c'est du rock à l'américaine, quoi. Il y a un peu de synthé. Enfin, voilà, c'est un groupe culte, en tout cas, les Blue Oyster Cult. Tu connaissais de nom ?
Non, pas du tout.
Bon, d'accord. Eh ben, vas-y, tu peux annoncer le prochain. Vas-y. Allez.
Alors, toujours le vendredi 28 octobre, oui. Au Transborder à Villeurbanne, on a le groupe Groundation.
Voilà, c'est du reggae.
Le samedi 29 octobre, Moulin de Brennan, donc à Brennan dans le Jura, l'Orchestre National de Barbès. Bon, on retourne à Paris.
Voilà. Au Rock and Heat à Lyon, bah, ça, c'est pour moi, ça, c'est Lion oui. Maiden. C'est un tribute to Iron Maiden. T'as jamais pas dit le métal, toi. Métal, ça a jamais été ta tasse de thé.
Ça a jamais trop été ma tasse de thé.
Ah, trop. D'accord. Pas du tout. Ok, pas du tout. Bien.
Ensuite, le dimanche 30 octobre, on a à l'épicerie moderne de Fézin le groupe Black Bones.
Le même jour, au Bœuf sur le Toit, Lons le Saunier, Steve Waring à 16h.
Steve Waring avec son banjo, bien évidemment.
Oui.
Ah, bah oui. Oui. Au Radiant à Caluire, Volbeat.
Ensuite, mardi 1er oui. novembre, au Marché-Gare à Lyon, Burning Heads.
À la Commanderie Adol, dans le Jura, Gauvin Serre.
Super Gauvin Serre, très bel auteur, compositeur, interprète. Je sais qu'il vient à peu près... il est passé par l'école où j'ai travaillé l'écriture et la composition à Paris. C'était la Manufacture de la Chanson. Et je sais qu'il est très proche de cette jolie école et j'aime beaucoup ses textes.
Voilà. Et c'est un grand fan de Fred Bobin.
Ouais.
Donc, au moins pour ça, on l'accepte dans l'émission.
Oh.
Pas pour tout, mais au moins pour ça. Le mercredi 2 novembre, bah tiens, quelqu'un que tu sembles apprécier à Saint-Dérancy
oui,
à Lyon, Baptiste W. Amon.
Amon.
Oui. Et ben, j'espère que je suis libre ce jour-là parce que j'irai bien l'écouter. C'est pareil, un chanteur, auteur, compositeur. On en parlait tout à l'heure. Il écrit en français, mais il a vraiment des influences très country folk. Ouais. Donc forcément, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce qu'il fait. Ouais. Son dernier album est super et je cite une chanson que je trouve trop mignonne de lui qu'il a écrite récemment. Ça s'appelle « Boire un coup » et elle est toute simple mais tellement attachante. Donc bah, j'espère qu'il la jouera ce jour-là à la salle des Rancy.
Et en plus, il plaît bien aux filles.
Il est très beau, c'est vrai.
Voilà.
Le même jour...
On sait vous amadouer les filles.
Ouais. Alors... Tu les amènes voir Baptiste ?
Voilà.
Le mercredi 2 novembre, c'est pas loin d'ici, c'est au Café de la Tannerie, pardon, à Bourg, Young Hearts.
Le jeudi 3 novembre, Wardrobe Café à Lyon, Big Batch.
Et le même jour, jeudi 3 novembre, Salle Molière à Lyon, Riquet et Mike de Sinsemilia.
Voilà. Et on finit par le CCO La Rionne à Villeurbanne avec Sonata Artica.
Voilà, et puis qui dit concert, ben, toi les concerts, t'as commencé les concerts avec Glenn, enfin non, avant déjà.
Oui, oui, bah, avec Glenn, on tourne ensemble depuis 2017, et moi je m'étais déjà produite avec d'autres personnes dans d'autres scènes et festivals. Et si je peux parler de mes prochains concerts, justement avec le projet Glenn Herzel et Claire Nivard, on joue dans le 92 à Courbevoie.
C'est un peu loin pour nous, toi.
Oui, c'est vrai.
Ceux qui nous écoutent, ils vont...
C'est vrai qu'il n'y a pas de Parisiens qui vont écouter ça. Mais
si, bah avec le podcast, mais ce n'est pas forcément un public à qui on a envie de s'adresser. Voilà.
C'est vrai. Voilà. Mais pour l'instant, dans la région, ça va être sur 2023 voilà. Et c'est des options qui ne sont pas encore fixées.
Bah, la seule chose pour nous, c'est au Caravane Théâtre à Chassieux quand même pour le 28 avril
pour
2023.
Pour les raisins de la colère.
Pour les raisins de la colère, ouais. Ouais, pour l'instant, c'est tout. Mais pour l'instant.
Il ne faut pas la manquer cette date parce que ce sera la seule dans la région sur 2023. Donc,
c'est un projet compliqué à faire tourner.
Non, au contraire, on a une super tournée là depuis un an et demi, mais on joue beaucoup dans le Nord, bizarrement. Là, on a des dates à venir un peu partout en France, mais en région Auvergne-Rhône-Alpes, pas beaucoup, bizarrement.
Bizarrement. Donc avec Glenn, le projet dans Glenn Arzel et Claire Nivard, donc vous avez sorti donc un premier EP, on disait en début d'émission, Evening Songs, puis un album,
ouais.
Winding Road.
C'est ça.
Avant que vous veniez un jour nous le présenter, puis présenter vos chansons en disque et puis en concert radiophonique, parce que vu ce que j'ai vu sur YouTube avec la chaîne guitare, par exemple, il y a eu de très bons moments qui m'ont donné envie de vous inviter.
Écoute, ce sera avec plaisir.
Donc en attendant, ce sera l'album.
Bah oui.
Ce qui est bien aussi.
Oui. Hein oui, avec deux morceaux. Police Circuit, on recommence. Ah bah. Je t'ai embêté tout à l'heure, tu peux m'embêter.
Ah bah.
Police Secret. Vas-y, présente-le.
Mais c'était ça, Police Secret.
Voilà. Et c'est un morceau de Glenn Arzel et Claire Nivard, extrait de Winding Road.
So many lies, no more tears.
so many lies. No more cheating, no more fooling. All the money's
Police Secret par Glenn Arzel et Claire Nibar, un extrait de l'album Winding Road publié en 2020.
Eh bien, il va être l'heure de se quitter. Eh oui, Claire Nibar, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Terminus des Prétentieux.
Merci beaucoup à vous deux pour votre accueil.
Merci à toi.
C'était vraiment un vrai plaisir de découvrir cette émission.
Plaisir partagé. Rappelons que ton premier EP en solo, Entre deux, est sorti depuis le 15 juin 2022. On peut se procurer où, sans oublier les trois disques avec Glenn Arzel.
Alors, on a des liens vers des boutiques en ligne sur nos deux sites, clairenivard.com et glennarzel.com. Et après, sinon, tous les CD sont sur les plateformes de streaming, sauf Winding Road, qui est juste commandable en CD. C'était un choix de ne pas le diffuser en streaming pour le moment.
Il est introuvable, non, maintenant?
Si, vous pouvez le commander sur nos sites, en tout cas. Mais il n'est pas en écoute gratuite sur les plateformes.
En exclusivité sur les sites.
Je pensais à celui d'avant qui est malheureusement...
Evening Songs, il est en rupture de stock actuellement, mais on va en faire represser pour, dans quelques mois, en tout cas pour la saison prochaine.
Alors, côté concert, pour l'instant, nous on te retrouve avec Glenn au Caravane Théâtre à Chassieux dans le Rhône, le vendredi 28 avril 2023.
Pour les raisins de la colère.
Voilà. Tonio, bonsoir.
Bonsoir Michel.
La semaine prochaine, il y en aura pour tous les goûts, du métal au reggae en passant par le rock, le blues et la chanson. Mais il n'y a pas de jazz. De quoi vous donner envie de retrouver les salles de concert qui vous attendent de pied ferme, hein?
Oui, après les vacances.
Et puis comme tu le dis si bien, Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sous les 90.0
de Radio B.
Claire, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
À très bientôt avec Glenn pour quelques chansons en direct.
Avec grand plaisir.
Avec vos guitares, bien sûr.
Ou un banjo.
On prend les deux. Et à bientôt.
À bientôt,
bonne
merci.
Soirée.
Salut à tous. To sleep and dream.